Et bonjour, vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous entendez eh bien cette œuvre qui fait beaucoup de bruit, c'est du Tubine. C'est en fait la fin du premier mouvement de la cinquième symphonie dirigée par Monsieur Nem Jarvi. Vous savez que donc Nem Jarvi était là la semaine dernière au festival de Radio France et de Montpellier. Aujourd'hui nous avons la deuxième émission. Eh bien, comme toujours, nos émissions du Festival Radio en France, nous avons des interviewés et nous avons un intervieweur devant vous. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, vous avez la chance d'avoir deux interprètes. Le premier, c'est Anaïs Bertrand, une mezzo-soprano, une jeune mezzo-soprano. Et en second, nous aurons M. Julien Chauvin, qui lui dirige le concert de la Loge, et qui était là à Montpellier, lui aussi, pour un concert autour de Haydn. Donc nous allons d'abord parler de Anaïs Bertrand et vous allez voir qu'elle a des tas de choses intéressantes à nous dire. Et nous écouterons entre les deux parties de l'interview un extrait de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, l'Agnus Dei, qui a été enregistré lors du concert à la suite du festival qui était d'ailleurs également un concours de musique baroque, le concert à Froville. Et vous allez voir comment cette dame est une merveilleuse chanteuse, donc Anaïs Bertrand. Anaïs Bertrand, donc vous êtes mezzo-soprano, c'est ça ?
Exactement.
Alors, comment vous avez trouvé votre voix ? D'abord, la voix, celle que vous voulez d'ailleurs.
Alors, comment j'ai commencé le chant ?
Ouais.
Alors moi j'ai commencé très très jeune, à 6 ans, à chanter dans une chorale. Voilà, mais de manière très, bon, voilà, très amateur, mais enfin, j'étais enfant surtout, donc très... Très chouette. Et c'est plus tard, vers 17-18 ans après mon bac, que je me suis dirigée vers la maîtrise de Notre-Dame, où j'ai fait des études, de musique, de musique sacrée, de musique du Moyen-Âge, mais aussi des cours de chant, des cours de théâtre et tout ça. Et j'y ai passé 5 ans. Et ensuite, je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où j'ai refait 5 ans d'études.
D'accord. Voilà. J'ai vu que vous avez fait de la sociologie, non ?
Ah oui, voilà. Alors, ça, c'est vrai aussi. En disant que quand je suis rentrée à Notre-Dame, comme, en fait, quand on est chanteur, déterminer tout de suite qu'on va être un chanteur, c'est pas toujours facile. Parce que le temps que la voix mûrisse, voilà, se pose, tout ça. Donc à 18 ans, moi j'étais vraiment... Bon, je ne savais pas encore, quoi. Et du coup, je me suis inscrite en sociologie à la fac, où j'ai fait toute une licence, en fait, qui m'a vraiment passionnée, quoi. Donc voilà. Donc, et puis finalement, c'est après ma licence, où là je suis rentrée en master, que j'ai été prise à Notre-Dame dans un cycle qui s'appelle le cœur d'adulte, qui est à temps plein, et où j'ai plus eu le temps. Et donc là, ça s'est imposé, j'ai fait le choix.
D'accord. Et à côté, vous aviez fait un instrument ?
Alors non, moi, enfin, vers 18 ans, j'ai fait un peu de violoncelle, mais c'était vraiment pas concluant. Et au conservatoire, j'ai dû faire un peu de piano aussi. Mais vraiment non, moi j'ai commencé par le chant et je suis une chanteuse.
D'accord. J'ai vu également que vous aviez fait un petit enregistrement dans le Requiem de Duruflé, c'est ça ?
Ah ouais, c'était il y a longtemps maintenant, parce que c'était juste avant que je rentre au conservatoire, donc c'était au CNSM, donc il y a 8 ans. Et c'était justement avec ce cœur d'enfant avec lequel j'ai grandi, qui m'a appelé ensuite pour faire la partie d'alto solo dans le Requiem de Duruflé, qui est magnifique, le Pieyezu. Donc voilà, c'était une super expérience.
D'accord. Alors, mezzo-soprano, c'est une voix qui vous tombe comme ça et vous l'acceptez ? On n'aurait pas envie, enfin, d'être plutôt une soprano et de partir dans les grandes altitudes ?
Eh bien, vous pourrez être surpris qu'en fait, les mezzo-soprano, on monte aussi pas mal.
Oui, dans non, les bien sûr.
Donc, en fait, c'est une voix qui est comme... C'est plutôt la couleur de la voix qui détermine, même si, évidemment, on n'a pas les mêmes capacités que des sopranos très aigus. Mais donc, c'est plutôt une couleur quoi, qui détermine aussi...
Moiré, je dirais.
Voilà, moiré par exemple, couleur chaude et tout, qui détermine un peu le répertoire. Mais en fait, surtout après, en faisant de la musique ancienne, c'était une époque où les tessitures n'existaient pas vraiment. Donc bon, je ne me pose pas toujours trop de questions. Je vais là où je sens que que la voix peut faire la musique. Et puis voilà. Donc non, moi je suis très heureuse d'être une mezzo-soprano.
D'accord. J'ai vu que vous avez travaillé avec Udo Reinemann, qui quand même était un sacré chanteur de leader.
Ouais, alors
donc ça veut dire que vous avez un peu travaillé ce côté-là ?
Bah oui, puis en conservatoire, en fait, on a travaillé beaucoup d'opéra, de musique, vraiment. Mais je me souviens très bien, parce que j'étais assez jeune quand j'ai fait cette masterclass. Et je me souviens que ce concert de fin de masterclass, c'est la première fois que je me suis sentie à ma place, vraiment, sur scène, toute seule. et que ça avait été un vrai déclic grâce à lui.
D'accord. Et en termes de poser sa voix, de trouver où est-ce qu'on doit se situer, c'est venu assez rapidement pour vous ou pas trop?
Comment ça?
Ben, c'est-à-dire qu'au début, des fois, on se dit, tiens, je vais être mezzo, puis non, ça va pas, il faut que je passe soprano, et puis on se retrouve à un endroit pas très défini.
Oui, c'est vrai. Disons que au début, moi, je chantais soprano, en fait. Parce que, et puis ça s'est déterminé. Vers 20 ans, en fait, ça s'est un peu dessiné. Vers 21 ans, où en fait, j'ai senti que j'étais plus à l'aise. Et puis, il y a un goût aussi. C'est aussi un peu une histoire de... Il y a la voix, et puis il y a aussi ce qu'on a envie de faire avec notre voix. Et pour moi, ça n'a pas été une grande question. Ça n'a pas été un tiraillement personnel.
D'accord. Alors, au point de vue répertoire aussi, vous faites beaucoup d'italien, on en reparlera. Mais est-ce que vous avez beaucoup travaillé la virtuosité, et on sait qu'à cette époque-là, il y a de quoi faire, ou est-ce que, donc, vous l'abordez plutôt autrement?
Notamment là dans le concert que je vais faire au Festival de Radio France, il y a une cantate de Handel qui est très virtuose. Mm-hmm. Mais dans tout le... C'est vrai que j'ai jamais voulu aborder la musique totalement sous l'angle de la virtuosité, mais plus de l'expression. Et si il y a de la virtuosité au service de cette expression, alors oui. Mais voilà. Je préfère choisir un morceau qui me touche, un air de virtuosité. D'accord. Mais là, il se trouve que, notamment pour cette cantate d'Handel, il y a les deux. Donc là, on se retrousse les manches et on y va.
D'accord. Est-ce que vous avez fait un travail particulier, justement, sur cette virtuosité baroque, sur cet art baroque, ou vous le prenez un peu comme...
J'ai beaucoup fait ce répertoire, et puis là je joue avec Robin Faro ici, qui est avec qui je vis, donc et qui fait de la viole de gambe, donc en fait je suis quand même vraiment baignée dans cette atmosphère baroque depuis longtemps, que je trouve vraiment très belle, et du coup j'ai eu vraiment la chance de côtoyer plein de musiciens, et à force de parfaire le style, quoi.
D'accord. J'ai vu quelque part aussi que vous avez travaillé avec Alain Buet, il me semble, ouais. Qui lui était plutôt, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce qu'il chante plutôt plus trop en ce moment. C'était plutôt le grand répertoire français, je dirais.
Justement, lui, c'est un profil de chanteur intéressant, parce qu'il a fait, il a fait beaucoup de répertoires que j'adore. Il fait énormément de musique ancienne, il fait aussi de la création contemporaine, il a fait des opéras comme Pélias et Mélisande. Donc il a typique le genre de profil de carrière qui m'intéresse.
D'accord. Alors dans le programme, j'ai vu qu'à côté, donc, y a un peu de tout. Hein. Vous avez mis une, je ne sais pas s'il faut parler ça, une création, mais enfin, une œuvre contemporaine.
Ouais.
Alors, vous situez-vous, vous aimez faire les grands pas, les grandes marches comme ça, ou c'est un peu le hasard?
Non, si, j'ai toujours aimé beaucoup mélanger. C'est vrai que j'ai un amour à la fois pour la musique ancienne et en même temps, pas pour toute la musique contemporaine, évidemment, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, là, on va jouer demain la pièce de Fabien Touchard. Et Fabien Touchard, c'est un compositeur génial que j'ai rencontré au conservatoire, qui est pianiste aussi, avec qui j'ai joué. Et qui a composé plein de pièces que j'ai chantées. Et là, il nous a créé pour l'occasion un cycle pour viol de gambe et voix, qui s'appelle The Wave.
Alors, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de compositeurs actuels qui s'amusent à mettre de la musique, des instruments baroques. Il n'y a qu'à voir Hersant, ou on peut citer d'autres. Donc, est-ce que ça vous touche particulièrement ou...
Bah oui, c'est vrai que ça me touche. Papa, par exemple, la viole de gamme, c'est un instrument qui a disparu complètement pendant 200 ans. Et d'imaginer que les possibles se réouvrent. Là, récemment, j'ai fait à la radio, on a fait une pièce de George Benjamin, qui est un compositeur anglais, pour 5 viols de gambe et mezzo, qui s'appelle Up and Silence, et que j'adore, quoi. Et c'est vrai que ce mélange, ça me touche particulièrement. Après, j'adore aussi la musique contemporaine avec instruments modernes, mais ce mélange-là m'intéresse.
Alors, on parle beaucoup de musique baroque, de musique contemporaine et de concerts. Mais il y a quand même quelque chose derrière qui s'appelle l'opéra. Alors, est-ce que vous avez commencé à le toucher ? Est-ce que vous avez des...
J'ai fait un peu d'opéra baroque. Par exemple, la semaine dernière, je faisais dans la cour de marbre du château de Versailles, je faisais les arts florissants de Charpentier avec l'ensemble Marguerite Louise, où je faisais le rôle de l'architecture qu'on a enregistré, tout ça. Et en ce moment, en fait, je suis à Aix-en-Provence et je fais le Requiem de Mozart avec l'ensemble Pygmalion, qui est mis en scène par Romeo Castellucci. Alors, c'est un oratorio, c'est très très particulier, et c'est vrai que je ne fais pas, en tout cas pour l'instant, de grand opéra. Mais aussi parce que peut-être que ça viendra un jour. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai ce goût de la musique de chambre, pour l'instant, que je continue à explorer.
Est-ce que ça veut dire aussi que vous ne faites pas beaucoup d'auditions pour vous faire embaucher dans des opéras ou des choses comme ça, ou avec des chefs ?
Alors, c'est vrai que moi, j'ai un réseau qui s'est un peu construit au fur et à mesure. Parce que comme j'ai fait mes études à Paris, il y a eu beaucoup de... Donc, jusque-là, il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi par ce réseau-là. Et puis, j'ai passé ce concours de Froville, qui était quand même devant des chefs et tout ça. Donc, j'ai fait ça. Après, c'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai déjà beaucoup de travail qui m'intéresse énormément. Donc, je ne suis pas, pour l'instant, je suis pas allée courir toutes les auditions, mais... chaque proposition m'intéresse, évidemment.
D'accord. Alors, parlez-nous de ce concours que vous avez gagné à Fourville. Bon, ce n'est pas un concours très connu, mais bon, dites-nous tout.
En musique baroque, déjà, la tradition du concours, elle est très récente. Parce que, il y a aussi ça, mais c'est aussi le charme de la musique baroque. Donc, Fourville, je crois que c'est un concours qui a 7 ou 8 ans, mais qui est un concours international, où il y a quand même plein de gens de partout qui viennent. Et moi, je n'étais pas du tout branchée sur les concours et tout ça. Je m'étais même plutôt jurée de jamais faire ça. et puis, celui-là, il a attiré mon attention parce qu'il fallait préparer 45 minutes de musique.
Et que 45
C'était énorme, un gros programme, et que je pouvais venir avec un instrumentiste. Donc, c'était comme...
Un gambiste, je suppose.
Non, c'est le deuxième. Je suis venue avec Grégoire Legros, qui m'accompagne là aussi au Festival de Radio France, au clavecin et à l'orgue. Et du coup, on a fait un vrai travail de duo et on a monté un programme. Et en fait, ça a été super parce que j'ai pu vraiment progresser, me dépasser. Et finalement, ça a été une expérience personnellement qui m'a ouvert beaucoup de possibles, quoi.
Voilà, vous venez d'écouter Anaïs Bertrand, mezzo-soprano, et puis vous avez entendu derrière nous, pendant que l'on parlait, les deux musiciens qui l'accompagnent, Robin Faro à la viole de gamme et Grégoire Logro au clavecin et au positif. Et maintenant, nous allons passer à un deuxième interprète, qui est un violoniste et chef d'orchestre. Il s'agit de Julien Chauvin, qui était à Montpellier le dimanche 14 et qui nous a donné en particulier du Haydn et les Stabat Mater de Haydn. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et nous avons pu discuter. Donc voici Julien Chauvin. Comment est-ce qu'on peut parler avant de commencer du concert de la loge olympique où il ne faut pas en parler?
Ah ben on parle de tout.
Concert de la loge olympique 2016, un peu le bordel.
Oui, parce que dès la création de notre orchestre, en fait, qui faisait référence, le concert de la loge olympique, à un orchestre très important à la fin du XVIIIe siècle. Le comité des Jeux Olympiques a trouvé judicieux de nous interdire l'utilisation du mot olympique parce que réservé aux Jeux Olympiques et ils ont eu peur qu'on utilise la notoriété des Jeux Olympiques.
C'est du gros n'importe quoi. Ils sont à culture ces gens, non?
Ah oui, c'est la musique fait pas partie de leur... alors que d'ailleurs dans les Jeux Olympiques à l'origine il y avait des disciplines artistiques.
Voilà, d'accord. Donc finalement vous avez enlevé olympique, bien que vous les ayez laissés sur votre site. Hein.
Oui, c'est ça. Alors très légèrement, on a peine à le voir, mais
on le voit quand même. On le voit bien.
On voulait que ça reste évidemment dans notre ADN. Dans notre ADN.
D'accord. Alors j'ai vu aussi que vous occupiez toujours, il me semble, du Quatuor Gambini. Non?
Oui, bien sûr, oui, Gambini, oui, on continue évidemment à donner des concerts de quatuor, enregistrer des disques, le répertoire classique, le répertoire romantique, instrument ancien toujours.
Sur instrument ancien. Alors j'ai vu que vous avez travaillé avec Vera Betz, qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Bon, elle ne donne plus beaucoup de concerts, il me semble.
Non, elle en donne un petit peu moins, avec son mari aussi, Anner Bilsma, qui est assez malade, depuis quelques années. Mais évidemment, ça a été pendant 5 ans pour moi, quand je suis parti à Amsterdam faire mes études, ça a été des moments absolument incroyables d'apprentissage, de partage avec eux, d'être chez eux dans leur maison, d'avoir des cours extrêmement régulièrement sur tous les répertoires. Évidemment, ça m'a beaucoup changé la vie.
Mais qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Vous étiez au Conservatoire National Supérieur, non? C'est pas ça?
Non. Moi, je suis parti assez vite en France, justement, parce que je n'avais pas été reçu dans les conservatoires parisiens et lyonnais. Donc l'ouverture que j'ai eue, c'était la Hollande, et notamment cette ouverture des répertoires classiques, baroques et contemporains, où j'ai aussi fait avec eux, avec Vera Betz, beaucoup de musique contemporaine.
Mais comment vous y êtes tombé dessus, si je peux...
Ah, c'est par un ami qui était, à l'époque, était mon professeur, c'était Jérôme Pernaud, un grand violoncelliste, qui avait déjà joué aussi avec Anner Bilsma, et puis qui trouvait que ce serait une bonne porte d'entrée pour tous ces répertoires, pour moi.
Oui, c'est un grand monsieur, je me rappelle avoir interviewé ici, c'est un grand monsieur qui voyageait beaucoup, trop.
Oui, absolument, ouais. Non, mais c'est sûr.
On est bien d'accord. Et puis après, il y a la direction d'orchestre, alors ça ne s'apprend pas.
La direction d'orchestre, est-ce que ça ne s'apprend pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ne s'apprend pas? Non, ça ne s'apprend pas, c'est-à-dire que la direction d'orchestre, ça veut tout dire. C'est-à-dire diriger, ça veut dire emmener des musiciens dans un projet, les convaincre, ça veut dire les motiver, ça veut dire les responsabiliser. Et ce que je fais, dont on aura une illustration ce soir, c'est de diriger de la place du premier violon.
Comme ça se faisait souvent. Alors,
comme ça se faisait absolument à l'époque. Le chef d'orchestre arrive quand même plus tard, au 19e siècle. Mais être avec un violon ne signifie pas qu'il y a moins de précision. Au contraire, on peut respirer ensemble, on peut se voir. Et la précision d'un archet sur une corde est très importante aussi.
D'accord. Donc vous avez... Avec la direction, vous avez créé au moins 2 ensembles. Moi, j'en ai noté 2, mais il y en a peut-être eu plus.
Vous voulez dire...
L'ensemble enfin, d'orchestre.
Oui. Vous parlez du Sac de l'Harmonie?
Par exemple. Oui, vous étiez co-directeur.
Oui, co-fondateur, oui, voilà. Absolument. Et puis là, le concert de la Loge, qui est une émanation directe, où tous les musiciens sont partis, oui.
Alors, dans le concert de la Loge, vous étiez parti... Enfin, vous êtes... Ici, vous nous avez donné des symphonies de Haydn. Vous avez au moins 3 enregistrements, non?
Oui, on a, trois enregistrements, trois volumes déjà des symphonies parisiennes. Un quatrième qui sort à l'automne, là, à la rentrée. Et puis, pour notre cinquième volume, ça sera la fin des symphonies parisiennes.
Voilà, c'est ce que
j'allais dire, vous allez arriver au bout. Et le Stabat Mater de Haydn.
Lui-même Haydn. D'accord. Alors, ce soir, vous allez donner quelque chose d'original, le Mozart suédois. Alors, dites-moi, on a entendu des Mozart noirs, des Mozart tout court, et puis là, on a eu
le Mozart français, c'est François de Vienne.
Voilà, c'est ça.
Ce qui va être très beau, c'est de cheminer à travers ce Stabat Mater de Haydn, de cheminer avec des pièces qui ont été très proches de Haydn, ou des pièces ou des compositeurs. On a Hasse, qui était son grand maître de musique sacrée. On a
Cherubini aussi, il a fait
et d'opéra. Cherubini, qui a été évidemment grand admirateur de Haydn. Krauss, qui a parfois plagié Haydn, qui a parfois mis son nom sur des symphonies de Haydn.
À l'époque, ça se faisait un peu.
Ça se faisait beaucoup, mais Krauss, là, en effet, fait par rapport à Haydn. Donc là, on a un cheminement avec le Stabat dans son intégralité, mais entrecoupé de pièces.
On faisait à l'époque, on saucissonnait absolument tout.
Oui, on saucissonnait, en effet. Même à Paris, au concert spirituel, on pouvait donner la première partie du Stabat Mater de Haydn le mercredi et la deuxième partie le jeudi.
Ah oui, d'accord. Oui, c'était même jusque-là. Moi, jusque je me rappelais par journée, mais
et
bon,
oui,
on peut
ça
imaginer.
Ça pouvait mettre sur deux jours, c'est ça qui est extraordinaire.
Thank you. Et alors le public, comment il arrivait à avoir une idée de la continuité de la chose?
Oh, mais le public à l'époque, non, pas du tout. Au contraire, ils étaient tellement connaisseurs, connaisseurs que pour eux, c'était pas du tout un problème. Et puis ils étaient dans la Semaine Sainte, donc ils assistaient à tous les concerts. Et le Stabat Mater de Haydn, c'est celui qui rivalise le plus avec celui de Pergolèse. Le Stabat de Pergolèse est joué au concert spirituel tous les vendredis saints entre 17...
Dans des adaptations bizarroïdes, des fois.
Oui, alors il y a des choses avec chœur, il y a des choses avec ténor et soprano, il y a différentes versions, mais entre 1750 et 1790, il est joué près de 80 fois.
Ce qui est le record absolu.
Ce qui est très important. Et quand Haydn est joué, le Stabat de Haydn est joué en 1781 pour la première fois à Paris, il va être joué quand même 30 fois en 9 ans. C'est-à-dire qu'il va être extrêmement apprécié. Et on dit à l'époque qu'il y a les deux Stabats, celui de Pergolèse et celui de Haydn.
D'accord. Alors si j'ai bien vu le concert de la loge, enfin, l'original, il pouvait y avoir énormément de musiciens.
Oui, en règle générale, il y avait beaucoup de musiciens. Oui, alors jusqu'à 65.
Voilà, c'est ça. Au lieu de 70, je ne sais pas. Oui. Et là, vous arrivez, vous, à avoir combien de...
Non. Là, l'idée, ce n'est pas de recréer exactement le nombre de musiciens. Parce que, d'une part, dans le Stabat Mater de Haydn, il n'y a que les cordes et deux hautbois.
D'accord.
Donc là, déjà, on est sûr de ne pas arriver à 65.
Même en doublant.
même en quadruplant. Donc ça, ça dépend des effectifs. Ensuite, c'est pour les cordes qu'il y avait des effectifs assez importants, notamment parce qu'à l'époque, dans le concert de l'Olympique, il y avait des amateurs qui y jouaient. Il y avait à la fois les grands professionnels qui étaient à l'opéra, qui étaient au concert spirituel, et puis on avait des amateurs de très très haut niveau, mais qui n'avaient pas le droit d'en faire profession.
Et vous ne pouvez pas un jour faire ce genre de choses?
Si,
parce
absolument.
Que vous avez déjà fait des concerts où la dernière fois que vous étiez venu, on a eu
des extraits.
Ouais, des extraits.
Oui, avec les gens que la musique c'est au milieu.
Ouais.
Mais si, ça fait partie de nos projets, mais ça met du temps.
Il faut trouver
il faut trouver des grands amateurs, mais bon, on va en trouver. Mais ça va venir.
Et alors, qu'est-ce que ça demande comme travail, ce Stabat Mater?
Ah, bah là, c'est un travail.
Par rapport à l'original de Haydn, il y a une grosse différence?
Alors là, on est vraiment parti sur la version parisienne. Parisienne du Stabat Mater. C'est-à-dire que je m'intéresse pas à comment ça a été joué à Vienne en 1767. Je m'intéresse à la manière dont ça a été joué à Paris au concert spirituel en 1781.
D'accord.
C'est-à-dire avec une prononciation du latin à la française.
Voilà. Et Jérusalem.
Et pas
Jérusalem.
C'est ça, Jérusalem. Toutes les sortes. Et puis, certaines instrumentations sont un tout petit peu différentes. Beaucoup de dynamiques, de nuances sont différentes. L'utilisation des sourdines.
Il n'y en avait pas à l'époque de Haydn ?
Si, il y en avait. Mais en France, ils en mettent à d'autres mouvements aussi.
Ah, d'accord. Il y a peut-être la partition qui a été donnée en France.
Voilà.
Il y avait une énorme bibliothèque, si ça me...
Oui, alors il y a eu un manuscrit qui est arrivé en France. Hein, sur lesquels des musiciens du concert spirituel se sont basés pour établir une édition. Et c'est cette édition qu'on suit et c'est pour ça qu'on va donner et enregistrer cette version du Stabat Mater français.
Et le diapason, alors, il se place où, là?
Le diapason? Ouais. Alors, on est à 430. Là.
Oui. C'était la même chose à peu près à Vienne, non?
Oui, on était à 425, je crois, à Vienne.
Oui, ça ne change pas.
432.
Oui, ça ne change pas grand-chose.
Non, le diapason ne change pas grand-chose.
Et les symphonies de Haydn, c'était dans le même diapason aussi
ou... Oui. Enfin, il y avait tout. Là, franchement, la question du diapason, elle n'est pas très... On a beaucoup arrêté les choses dans les années 80. On a dit, le baroque, c'est 415, le classique, c'est 430.
Ouais, mais enfin, le baroque...
Alors qu'à l'époque, c'était tout.
Ben
c'était,
oui,
c'était 403, 402, 405, les hautbois 422, les 425.
Voilà.
Donc voilà, c'est arbitraire et on est dans l'arbitrage.
Moi, ça me fait toujours rigoler quand on a un petit ensemble qui joue d'abord du Bach et après du Vivaldi ou l'inverse. Quel diapason s'amuse à prendre?
Vivaldi très haut, Handel autrement à Londres. Non, on joue
une moyenne,
voilà,
et puis c'est fini.
C'est pour des simplifications. Sauf que dans l'Europe, ça a nivelé le son, ça a nivelé la sonorité. Parce que tout le monde maintenant a le même 415.
Voilà,
bon, là, on vient d'enregistrer un disque de concerto de Vivaldi à 422.
Ah, voilà. Et alors, ça pose quelles difficultés particulières?
Aucune.
Mais l'oreille absolue prend un petit coup dans la tête.
Ceux qui ont l'oreille absolue peuvent être gênés, mais bon, c'est pas...
Ouais, ça se...
Je sais pas.
D'accord. Pour conclure, vos concerts suivants?
là, je vais en Suisse diriger l'orchestre de chambre de Bâle.
Ah, vous aussi, vous commencez à virer, à passer sur les gros orchestres.
Non, comme ça.
Mais encore, l'orchestre de Bâle est quand même assez...
Une bonne histoire, une très bonne tradition. C'est pas assez fort. Et puis après, je vais au Brésil fin août pour un nouveau festival baroque à Rio avec Olivier Beaumont. On va dans un festival avec Chantal Santon près d'Angers. Puis on va avec le Quatuor à Brûle. Brûle, c'est à côté de Cologne, dans un château.
À Brûle,
pour Beethoven, Haydn, Mozart. Voilà.
D'accord, donc pas le temps de s'ennuyer.
Ah non, là, l'été est fou.
Mais je vous remercie beaucoup. Voilà, vous venez d'écouter donc Julien Chauvin qui dirigeait son concert à la loge avec un timbalier qui insistait lourdement pour raccorder son instrument. C'était donc la répétition du dimanche 14 juillet. Alors maintenant, quels sont les différents concerts que vous pouvez écouter aujourd'hui, mardi et mercredi et puis jeudi ? Alors voici, donc aujourd'hui mardi, il y a 8 concerts, donc vous ne pourrez pas tous les voir, surtout qu'il y en a qui ne sont pas à Montpellier. Donc je vous propose 2 concerts, Teddy Pabravani, immense violoniste, avec Maki Okada, dans la salle Pasteur à 17h, qui vont jouer du Paganini, etc. Et surtout ce soir, le concert payant, à 20h à l'Opéra Berlioz, c'est Evgeny Kissin avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ils vont nous jouer du Vax, du Liszt et du Prokofiev. Mercredi 17 juillet, là il y a 7 concerts à nouveau, voilà. Donc sur Montpellier, il y aura Ophélie Gaillard à la salle Pasteur à 17h30, Femme, Femme, Femme. Voilà, du Schumann, du Kyriakou, du Boulanger, du Canada Chizy et du Stroll, c'est-à-dire des dames compositrices. Et à 20h, à l'Opéra Berlioz, au Corum, Plaisir d'amour. C'est le concert et le chœur de concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, avec donc Adriana González, Sébastien Droy, Mikhail Tomoshensko, et qui vont jouer du Martini et du Berlioz. Voilà. Et jeudi, nous en resterons là. Donc jeudi, il y a 13 concerts. Alors là, ça y va à fond la caisse. Alors vous en avez beaucoup hors Montpellier, en particulier à Toulouse. Mais à Montpellier, j'ai au moins signalé le génie Geniusas, c'est Lucas Geniusas, un pianiste qui va jouer du Prokofiev et du Desianitkov. C'est à Berlioz à 20h. Mais vous en avez tout un tas et je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y a trop de choses. Voilà. Je vous remercie d'écouter bien FM+, et je vous dis à vendredi. Merci Stéphane, à bientôt.